Si un homme a beaucoup plus qu'il ne faut, c'est que d'autres manquent de l'essentiel. Lev Nikolaïevitch Tolstoï. Léon Tolstoï, sa vie, son œuvre, son engagement dans la Russie du 19e siècle. Une émission de Claude Ferret.
Nous recevons aujourd'hui Claude Ferret, paysan sans terre. Il a fait plusieurs voyages en Russie. C'est un passionné de Léon Tolstoï. Lev Nikolaïevitch Tolstoï, fils de bonne famille, comte, barine et grand propriétaire terrien. Il s'insurge souvent contre l'ordre établi. Il ne se tait jamais. C'est un écrivain universellement lu. Bonjour Claude Ferret.
Bonjour à vous. Voilà, évidemment, je suis ici à Radio Saint-Afrique et parce que ma passion de Tolstoï m'a emmené jusqu'ici. J'ai été paysan toute ma vie, on peut dire. J'ai toujours aimé les voyages. J'ai aimé rencontrer d'autres civilisations, d'autres cultures. Et voilà qu'il y a 7 ans, au cœur de ma ferme, j'ai rencontré un livre de Tolstoï. Et ça a été le début d'une aventure absolument extraordinaire. Ça a été comme un voyage intérieur et j'ai voulu en savoir davantage. J'ai lu tout Tolstoï en réalité, quoi. Tout Tolstoï, c'est un peu prétentieux, mais vraiment tout ce que j'ai pu trouver en tout cas. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que j'aille sur les traces de Tolstoï en Russie. Et je suis parti, j'ai organisé un premier voyage en 2004 dans la propriété de Tolstoï. Et j'ai rencontré des gens extrêmement intéressants qui m'ont ouvert les portes pour mes voyages qui ont suivi les années 2005 et 2006. Voilà. Donc, Tolstoï est quelqu'un qui me passionne sur tous les plans, sur les plans humains, bien évidemment. Tolstoï a été un pédagogue, un travailleur social, un pourfendeur de tous les pouvoirs. Et c'est une personne qui est comme un miroir pour moi. On ne peut pas vivre ainsi. 20 à 30 moujiks sont pendus chaque jour. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Léon Tolstoï vient de mourir. Le russe le plus célèbre, mondialement connu, vient de s'éteindre dans sa 82e année. Sa femme est venue sur place le rejoindre et dort dans un wagon affrété spécialement pour elle. Une de ses filles et deux de ses fils sont eux aussi au chevet de leur père. Un petit groupe d'amis de Tolstoï est arrivé pour partager avec lui ces instants uniques. À son chevet, 6 ou 7 médecins s'entretiennent. Un haut responsable de l'église orthodoxe est reparti déçu, rejoindre son monastère. La presse du monde entier s'est précipitée. Les journalistes sont sur place depuis une semaine. Ils ont appris que Tolstoï, malade, se trouvait dans une petite gare perdue en plein milieu des steppes russes, à 400 km au sud de Moscou. Les capitales du monde entier, suspendues depuis une semaine à la santé de Tolstoï, sont informées très vite de sa mort. Il fait froid en cet automne. Il pleut, il neige, l'humidité vous pénètre jusqu'aux os. Il y a de la neige partout et de la boue. Les journalistes dorment n'importe où. Chacun doit se débrouiller comme il peut dans cette station sans aucun confort. Les télégrammes fusent vers toutes les rédactions du monde entier. Les films Pâté Frère ont dépêché une équipe de tournage sur place afin d'immortaliser l'événement unique. Une pluie de télégrammes, de condoléances arrive de toutes parts dans cette station jusqu'alors inconnue. Le tsar Nicolas II en personne envoie un télégramme, la Douma également, et aussi d'innombrables amis des quatre coins de la planète. Les grands théâtres, les salles de spectacle de toute la Russie ferment leurs portes. La police du tsar est très présente et surveille le moindre mouvement de foule. Elle redoute des manifestations de grande envergure. L'armée est en état d'alerte. Les trains sont interdits d'arriver davantage à cette petite gare d'Astapovo. La Russie, tout entière, est maintenant en deuil. Les paysans des alentours arrivent sous la pluie à travers des chemins boueux et enneigés, à pied, en charrette, pour saluer une dernière fois leur vieux libérateur. À travers une haie de policiers, on les autorise à défiler devant la dépouille mortelle. Tous pleurent leur petit père. Et maintenant, qui va être le porte-parole des 100 voix dans cet immense pays ? 100 millions d'habitants vivent sous un régime autocratique dur. Plus de 80% des gens vivent de la terre pauvrement. Tous ces gens viennent de perdre leur libérateur, leur professeur de vie. D'autres l'appelaient même l'homme humanité. Quelles sont les dernières paroles de Tolstoï avant de rendre son dernier souffle ? Il a dit « Je vous conseille de vous rappeler qu'il y a au monde des millions de personnes qui souffrent. Et vous, vous ne faites que de vous occuper du seul lève. La vérité, j'aime la V. » Et il s'éteint ce matin à 6h05 en ce 7 novembre 1910. Il y a 100 ans aujourd'hui, mourait Lev Nikolaïevitch Tolstoï.
Слово прощенное.
pendant ces 3 jours, au cours desquels le temps n'existait plus pour lui, il se débattait dans ce sac noir où le faisait entrer une force invincible et invisible. Il se débattait comme se débat entre les mains du bourreau un condamné à mort, sachant bien qu'il ne pouvait pas s'échapper. Et à mesure que les minutes passaient, il sentait que, malgré tous ses efforts, il s'approchait de plus en plus de ce qui le comblait d'épouvante. Il sentait que ses tourments provenaient de ce qu'on le poussait dans ce trou noir, mais plus encore de ce qu'il ne parvenait pas à y entrer. Et ce qui l'empêchait d'entrer, c'était le sentiment que sa vie avait été bonne. C'était cette justification de son existence qui le retenait et l'empêchait d'aller de l'avant et le tourmentait plus que tout le reste. Soudain, une force inconnue le frappa violemment à la poitrine au côté et lui coupa la respiration. Il culbuta dans le trou et là-bas, tout au fond, quelque chose brilla. Il ressentit ce qu'il avait naguère éprouvé en wagon lorsqu'on s'imagine qu'on avance tandis qu'on recule et que brusquement on reconnaît la vraie direction. Oui, ce n'était pas cela du tout, se dit-il. Mais ce n'est rien, cela peut encore se faire. Quoi, cela ? Se demanda-t-il. Et soudain, il s'apaisa. À ce moment précis, le petit collégien se glissa doucement dans la chambre. Il sentit clairement que ce qui le tourmentait et l'oppressait se dissipait, s'écoulait hors de lui, de tous les côtés à la fois. Il a pitié d'eux, il ne faut plus les faire souffrir, il faut les délivrer et se délivrer soi-même de leurs tourments. Comme c'est bien et comme c'est simple, songea-t-il. Mais elle, qu'en faire ? Se demanda-t-il. Eh bien, où es-tu ? Où es-tu, ma douleur ? Il tendit son attention. Ah, la voilà ! Eh bien, qu'elle reste là ? Et la mort, où est-elle ? Il chercha sa terreur accoutumée et ne la trouva plus. Où est-elle ? Quelle mort ? Il n'avait plus peur, parce que la mort aussi n'était plus. Au lieu de la mort, il voyait la lumière. « Voilà donc ce que c'est !» prononça-t-il soudain à haute voix. « Quelle joie !» Tout cela, pour lui, se produisit en un instant, et la signification de cet instant ne changea plus. Mais pour ceux qui l'entouraient, son agonie dura encore 2 heures. Des râles s'échappaient de sa poitrine, son corps décharné tressaillait, puis peu à peu, les sursauts et les râles s'espacèrent. « C'est fini !» dit quelqu'un. Il entendit ces paroles, les répéta en son âme. « Fini la mort !» se dit-il. « Elle n'est plus. » Il aspira l'air profondément, n'acheva pas son aspiration, se raidit et mourut.
D'entendre deux chants qui sont tirés de chants traditionnels de l'ancienne Russie. C'est le chœur d'hommes de Moscou sous la direction d'Anatoly Gridenko. Et le premier, c'était la mort d'un paysan tout alentour la steppe. Et le deuxième, Neige, le temps est venu. Et ces deux morceaux étaient entrecoupés d'un texte que a dit Claude Ferré, qui est un extrait du livre La mort d'Ivan Ilitch. Qui est cet Ilitch? Quelle est cette mort, Claude?
Alors voilà, donc La mort d'Ivan Ilitch est une nouvelle écrite par Tolstoï. Il a écrit cette nouvelle, il avait déjà un âge mûr, bien après Garepé et Anna Karénine. Et donc Ivan Ilitch, c'est son héros de la nouvelle La mort d'Ivan Ilitch, évidemment. Et Ivan Ilitch est un homme qui meurt, comme vous l'avez vu, bien sûr. On pourrait croire que c'est la mort de Tolstoï tout à l'heure quand je lisais, mais non, ce n'est pas la mort de Tolstoï, c'est la mort de son héros, la mort d'Ivan Ilitch. Il faut savoir quand même que toute l'œuvre de Tolstoï est une large autobiographie, même si c'est romancé. Donc, La mort d'Ivan Ilitch est un livre majeur pour moi, à travers lequel on peut sentir toute la philosophie et l'approche de l'existence de Tolstoï sur la vie, sur la mort. Je peux ajouter que c'est le premier livre que j'ai eu entre les mains. Et c'est vrai que c'est un livre qui a fait fureur en moi, parce que dans ce livre, Tolstoï dénonce tous les faux-semblants de l'existence. Et quand Ivan Ilitch meurt, ils se rendent compte que sa vie n'a pas forcément été comme elle aurait dû être. Mais quand même, à la fin, les dernières secondes, la dernière heure avant de mourir, on peut revoir des choses, quoi. Et cette histoire de sac dans lequel on rentre au moment de la mort m'a beaucoup plu. Enfin, j'encourage vraiment les gens à lire La mort d'Ivan Ilitch.
C'est ce livre qui a incité chez vous cette envie de connaître Tolstoï. Et donc, c'est un hommage que vous lui rendez aujourd'hui, puisqu'on démarre cette émission avec des extraits de ce livre. C'est vrai qu'on aurait pu croire, en l'écoutant, que c'était, comme vous l'avez dit, cette mort d'Ivan Ilitch, c'était la mort de Léon Tolstoï. Mais on va revenir à lui. Et, pourquoi il est venu mourir dans cette petite gare, là, en plein froid, en cette fin d'automne, sans aucun confort, dans cette modeste station de chemin de fer?
Ben oui, voilà, c'est quand même très important, parce que qu'est-ce que fait Tolstoï à mourir dans une gare sans confort au fin fond des steppes russes? Tolstoï voulait mourir seul, déjà, loin du monde. Il avait vécu 48 ans avec sa femme, sa famille, avec des amis et des admirateurs qui passaient sans cesse chez lui. Il n'en pouvait plus de cette vie de confort. Tolstoï avait une recherche pratiquement ascétique de l'existence. On verra dans les émissions plus tard tout ce qu'il a fait. Mais il ne supportait plus cette vie de contradiction entre la richesse et ses principes d'humanisme, entre sa célébrité et son désir d'ermite. Il voulait agir. Et il fallait agir vite. À 82 ans, il faut quand même réfléchir là et agir. Et depuis longtemps, Il pensait à cette fuite. Donc, Tolstoï était en fuite lorsqu'il s'est arrêté, malade, à cette petite gare d'Astapovo.
Mais il recherchait dans sa fuite, a priori, est-ce qu'il partait vers un monastère dans le Caucase où il avait aussi cette envie de faire un petit peu de... Il était très mystique aussi.
Oui, on peut dire que Tolstoï a été une personne, le mot mystique, il faudrait le définir, mais qui a été un chercheur, on peut dire, un chercheur de la vérité. Tolstoï va en dedans de lui-même, observe le monde avec des yeux de lynx, observe de l'extérieur et l'intérieur, et il découvre qu'effectivement, qu'il y a une attitude, des attitudes intérieures qui doivent être revues chez lui. Il s'intéresse, bien sûr, Tolstoï est très religieux, il a été éduqué dans la religion orthodoxe. On verra après qu'il a renoncé aux formes de la religion orthodoxe, mais il n'a pas renoncé au message intrinsèque de la religion. Donc il partait parce que il avait déjà contacté des vieux paysans. Pour un aristocrate de ce milieu, il était impensable que l'on puisse aller mourir dans une isba chez des paysans. Donc il voulait partir, il voulait tout quitter. On verra après, on détaille plus avant, que Tolstoï avait donné tous ses biens à sa femme et à ses enfants. Donc il voulait se débarrasser de tout, il voulait mourir comme les vieux sages en Inde, seul, dépouillé de tout. Et donc même s'il était en dehors des clous de la religion traditionnelle, il restait au fond de lui-même quelqu'un de profondément, on pourra plus tard définir ce que Tolstoï entendait par mystique et religieux, mais il voulait en tout cas une vie vraie. Ça se demande, on peut le définir. Il voulait une vie authentique, sans faux semblant, comme l'indique la mort d'Ivan Illich. Donc, il avait l'espoir de retourner vers le Caucase. On verra dans les émissions suivantes, il a passé 4-5 ans dans le Caucase, là où il a été absolument passionné de cette vie. Donc, il voulait les... et peut-être, pourquoi pas, dans un monastère. Il connaissait des monastères dans cette région, donc il savait pas trop. Il n'était pas seul, il était avec sa fille et un médecin, un ami médecin avec lui, donc il n'était pas seul.
Il a eu une grande correspondance avec le Mahatma Gandhi. Pourquoi il n'est pas parti le rejoindre?
Alors là, vous posez une question qui serait presque la dernière de mes émissions. Mais non, le rejoindre, c'est plutôt Gandhi qui serait venu le rejoindre, parce D'accord. que c'est Gandhi qui lui a écrit. Hein. Tolstoï a 82 ans, il était hors de question pour lui de quitter la Russie. Bien qu'il soit universellement connu, Tolstoï était russe. Et il aimait sa terre, il aimait ses paysans, comme nous verrons plus tard. Non, il a une correspondance avec Gandhi, bien évidemment, ça on pourra le en parler, ça fera l'objet de pratiquement d'une émission.
D'une prochaine émission. Oui. En ce matin du 28 octobre, il décide de quitter sa maison. Et que se passe-t-il après?
Ah oui, voilà, ça c'est une bonne idée. Il y a un livre qui a été écrit pour ça, que je pourrais vous citer à la fin, qui est très intéressant. Pourquoi Tolstoï, en pleine nuit, à 3h du matin, le 28 octobre 1910, quitte sa maison? Eh bien, Tolstoï avait fait des essais de partir, de fuir. Et il ne voulait pas quand même trop avoir montré au monde, parce qu'il faut savoir que Tolstoï en 1910 était connu dans le monde entier, non seulement par ses œuvres littéraires, mais bien davantage par ses écrits polémiques sur le servage, sur la critique de l'Église orthodoxe, critique du pouvoir des tsars. Donc, et il avait en lui cette vie religieuse très vivante qu'il habitait, et il ne pouvait pas supporter de vivre dans cette richesse, dans ce luxe. Donc, à 3h du matin, sa femme, qui dormait dans la chambre à côté, vient voir ce qu'il faisait, ouvre une porte, et Tolstoï tenait, parce qu'elle voulait savoir ce qui se passait dans ses journaux intimes. Il y a plus de 10 000 pages qui ont été écrites sur Tolstoï avec ses journaux carnés. Donc, Tolstoï tenait 3 carnets intimes à la fin de sa vie. Il y en avait un qui cachait dans ses bottes, l'autre sous son matelas, et l'autre qui était soi-disant officiel. Et sa femme, il y avait des conflits énormes, ça il ne faut pas avoir peur de le dire. Tolstoï avait des conflits énormes avec sa femme et certains de ses enfants à la fin de sa vie. Pourquoi ? Ben, pourquoi ? Parce que sa femme a voulu toujours, je la comprends, garder son standing d'aristocrate, son train de vie, comme on dit. Et Tolstoï ne voulait plus ça. Lui, il avait tout donné. Donc, il voulait vivre tout simplement. Donc, il y avait ce conflit entre sa femme qui voulait continuer à vivre des revenus de ses livres. Et lui, Tolstoï, à part toutes ses œuvres, après 1880, il les donne à l'humanité. Il dit « elles ne nous appartiennent plus ». Alors évidemment que sa femme voit ça d'un mauvais œil, et puis ses enfants aussi. Et donc ça a été la source d'une grande, grande distension.
Mais pourtant, ils se connaissaient, ils vivaient ensemble. Elle savait très bien quelles étaient les tendances de son mari, pourquoi il était très social comme ça et qu'il aimait partager tout ce qu'il avait. Elle l'avait quand même senti venir ou pas du tout ?
Elle l'avait senti venir parce qu'il a déjà essayé de partir. Il a essayé déjà de fuir plusieurs fois. Elle l'avait senti venir, mais elle était quand même, c'était quand même pas n'importe qui. Pour être la femme de Tolstoï, il faut avoir du cran. Et elle l'avait senti venir, bien sûr, mais elle refusait de voir la vérité, la réalité de Tolstoï. Et il y avait des disciples, j'aime pas ce mot du tout, mais Tolstoï avait un disciple qui était Tcherkov, Vladimir Tcherkov, qui était très très influent sur Tolstoï pour... Justement, et je pense que ça a été le grand conflit que Tolstoï a rencontré avec sa femme à travers Tcherkov, qui a voulu que toutes les œuvres, Tolstoï était d'accord bien évidemment, a voulu que toutes ses œuvres appartiennent à l'ensemble de l'humanité. Donc, il avait quand même donné toutes ses terres, toutes ses propriétés à sa femme et ses enfants, il faut le savoir. Mais il voulait aller plus loin. Et il s'aimait, ça c'est évident. Mais... sur les dernières années de sa vie, sur l'amour impossible. Il y avait une contradiction telle, trop forte. Tolstoï, à la fin de sa vie, ne s'appartenait plus. C'est évident, ne s'appartenait plus. Tolstoï ne pouvait pas faire un pas sans qu'il soit reconnu. Dès qu'il éditait quelque chose, tout le monde s'arrachait ses pages. Donc, cette contradiction... Et lui, il était complètement branché sur une vie ascétique, une vie intérieure. Et il voulait finir, il voulait être en accord, voilà. Il n'en pouvait plus de ce divorce entre ses idées et sa façon de vivre. Et il fallait qu'il mette en pratique. Et peut-être, moi je le pense, certains analystes de Tolstoï le diront aussi, peut-être voulait-il aussi choisir sa propre mort. En partant comme ça. Il était malade, il était fatigué. 82 ans, à cet âge-là, en pleine Russie. Il fait froid, il fait humide, il était fatigué, il avait mal aux poumons. Il faut être un peu fou. Mais c'est Tolstoï. Il est parti à 3 heures du matin. Il a fait atteler le cheval. Et là, c'est une histoire. Cavalerie l'explique merveilleusement bien dans son livre. Alberto Cavallari, La fuite de Tolstoï. Et là, il a fait des recherches parce qu'il y a toutes les biographies, des dizaines de personnes, des centaines ont fait des biographies sur Tolstoï. Donc on est documenté heure par heure. Et il part en calèche avec son cheval et sa télèque. C'est pas une télèque, parce que la télèque c'est pour les paysans, mais avec son carrosse, je sais pas, prendre le train et il s'en va en pleine nuit comme ça. Et ce qui est intéressant à dire, c'est que Tolstoï est quand même... il faut savoir que Tolstoï a une énergie absolument féerique, extraordinaire, autant intellectuelle que physique. Il montait à cheval la veille de sa fuite, le 27 ou le 28 au matin. Il montait à cheval encore, son vieux cheval délire. Et donc, il s'en va en train retrouver sa sœur. Il n'a qu'une sœur. Qui est moine au monastère de Chamardino. Et donc, il veut la rejoindre, il a besoin de se confier à elle. Et dans le train, il y a plein de monde. Il prend le train de troisième classe. Évidemment, il ne veut pas prendre le train de première classe. Il fuit, il est en fuite, il voyage sous un nom d'emprunt. Mais tout le monde le reconnaît, évidemment. C'est sûr. Et il en a marre de la fumée, il ne fume pas. Tolstoï est végétarien, Tolstoï ne boit plus, ne fume pas. Il mange des gruaux d'avoine, il est très sobre. Donc la fumée l'incommode beaucoup. Et il s'en va, les wagons en 1910 ne roulent pas à 300 à l'heure. Hein. À 300 à l'heure, ils roulent à, j'ai fait le calcul, 30-40 km à l'heure. Hein. Et il s'en va au frais. En pleine nuit, Tolstoï veut respirer l'air pur, les grands espaces. Mais le 7 novembre, en Russie, il ne fait pas chaud. Et oui, mais il est tellement bien dehors, à respirer le grand air, le train qui s'y avance, qu'il prend froid. Et ben oui, voilà, et il est tellement malade qu'il faut arrêter quoi, dans la gare d'Astapovo.
Voilà, donc c'est ses poumons qui ont une fluctuation de poitrine qui va l'arrêter dans cette gare.
Oui.
Léon Tolstoï, son œuvre est reconnue dans le monde entier pour sa profondeur d'analyse et sa réflexion. Il a influencé de nombreux partisans de mouvements pacifistes aussi.
Oui, je crois qu'il faut insister là-dessus parce qu'il est dans une contradiction énorme. Il est en fuite, sans argent, il est en fuite. Il veut mourir seul, il meurt devant les journalistes du monde entier. Et cette contradiction, elle est énorme, elle est insoutenable. Et si on cherche bien, qu'est-ce que fait Tolstoï dans cette vie intérieure qu'il se donne tout entier? Il expose merveilleusement bien le monde extérieur qu'il décrit avec un œil... une main d'artiste, il est las de la description, mais il ne décrit pas que le monde extérieur, il décrit notre monde intérieur. Et c'est en cela que Tolstoï est un profond voyant, je n'aime pas ce mot, mais il nous dévoile, oui, il nous dévoile, lorsqu'on s'intéresse, qu'on lit l'œuvre de Tolstoï, il nous dévoile. Mais il nous dévoile il nous dévoile toutes tout ce que l'on est, tout ce qui est bon, tout ce qui est mal, tel que l'on est. C'est ça qui est, je trouve, riche dans l'œuvre de Tolstoï, c'est qu'il dévoile l'homme tel qu'il est. Et lui, il se voit tel qu'il est, avec ses contradictions.
C'est un miroir.
Voilà. Tolstoï est un miroir, évidemment. Beaucoup ont parlé de Tolstoï comme un miroir, mais quand vous le lisez, vous vous voyez dedans. C'est évident. Alors, c'est évident que dans cette dualité très puissante, qui est, je trouve, attendrissante. Elle est attendrissante, cette dualité, parce que dans ses contradictions, Tolstoï reste un homme honnête. C'est un homme honnête. Il va jusqu'au bout de ce qu'il fait. On lui a reproché, bien sûr, bien évidemment, n'importe qui est public, on lui reproche évidemment quelque chose. Mais on lui a rapproché ses contradictions, bien évidemment. Mais il est toujours honnête dans ce qu'il fait. Et surtout, ce qui est assez unique dans notre histoire, c'est qu'il dit tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense. Ça crée des problèmes entre sa femme et lui, bien évidemment, avec ses journaux intimes. De dire tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense, c'est pas évident. Donc, on est au cœur, pour moi, de cette puissante dualité tolstoïenne.
Mais est-ce que, à vous entendre, à t'entendre, puisque j'ai...
Oui, je t'en prie.
On a l'impression d'avoir quand même quelqu'un de très agité, de pas très serein. Est-ce qu'il est stressé? Enfin, stressé, c'est ce mot actuel. Mais à l'époque, il était tellement perturbé. Est-ce que c'était un homme perturbé ou c'était quand même quelqu'un de calme?
Je suis vraiment désolé. Ça doit être mon agitation intérieure qui passe là. Je suis certainement beaucoup, beaucoup plus agité que Tolstoï. Non, on ne peut pas dire que Tolstoï est un agité lorsqu'on le voit, lorsqu'on vit à côté de lui. Je n'ai pas vécu à côté de lui, bien sûr, mais j'ai lu d'innombrables témoignages et on peut le voir vivre. C'est évidemment quelqu'un d'extrêmement maître de lui. Extrêmement maître de lui. Mais torturé, oui, mais un torturé calme.
D'accord, c'est difficile à imaginer, mais... L'œuvre de Léon Tolstoï est reconnue dans le monde entier pour sa profondeur d'analyse et sa réflexion. Il a influencé de nombreux partisans de mouvements pacifistes.
Oui, c'est vrai que Tolstoï a été connu... dès qu'il a été... C'est ce qui est assez extraordinaire dans la vie de Tolstoï, c'est qu'on peut dire que c'est assez unique. 60 années de son exil, il a vécu 82 ans, 60 années ont été une vie publique pour Tolstoï. Donc, et il n'a pas arrêté de travailler pendant ces 60 années. Donc, Tolstoï est évidemment connu, tout le monde, beaucoup de gens ont lu « La guerre et la paix ». C'est évident que c'est plus qu'un roman. Certains disent que c'est toutes les facettes de l'existence sont représentées dans ce roman « La guerre et la paix ». Kaufmann, quand il était en prison au Liban, je crois, au Moyen-Orient, là, il a lu 7 fois « Guerre et paix ». Et bon, pour citer que lui. Donc voilà, Anna Karénine, c'était évidemment des chefs-d'œuvre absolument fabuleux. Le troisième grand roman de Tolstoï, c'est Résurrection. Et il y en a vraiment des nouvelles innombrables. Donc il a été évidemment reconnu comme grand écrivain très vite. Il a commencé par écrire enfance, adolescence et jeunesse, qui ont été des petites nouvelles très très appréciées dans les milieux littéraires des années 1850 à Saint-Pétersbourg, où il y avait tout un mouvement intellectuel très 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 dynamique à cette époque-là. Et donc Tolstoï a été reconnu comme grand écrivain, surtout avec à partir de Guerre et paix, mais reconnu comme écrivain avant. Hein. Voilà, le côté littéraire a évidemment été très important pour Tolstoï. Et ensuite, Tolstoï s'est donné, mais ça on développera ça plus avant, après, plus profondément après, a été un pédagogue. C'est le thème qu'on pourra développer, parce que très peu de gens, la majorité des gens, connaissent Tolstoï par son côté littéraire. Le côté pédagogue de Tolstoï, Freiné, s'est inspiré de Tolstoï. On en reparlera certainement, il a créé des écoles. Donc tout le côté pédagogique, il y a des thèses qui ont été écrites, Tolstoï pédagogue. Ça, c'est une donnée importante de chez Tolstoï. L'autre troisième volet très important de Tolstoï, c'est toutes ses actions socio-humanistes.
Je reviens sur le côté pédagogue. Il a eu, au cours de ses nombreux voyages, il est venu en France et il a donc assisté à des cours dans des écoles françaises, et il a trouvé ça pas bien du tout. Il était vraiment pas content de la façon dont les petits Français étaient éduqués en France.
Oui.
Instruits, pardon.
Oui. Il est venu deux fois en France quand il était jeune, 26, 20, 30 ans. Le dernier voyage, il avait... j'ai pas les chiffres exactement en tête, mais il devait avoir 32 ans au dernier voyage. C'est surtout dans son deuxième voyage que Tolstoï est venu spécifiquement en Europe pour s'informer des nouveaux mouvements pédagogiques qui existaient. Il y avait... On est étonné, mais il y avait déjà des mouvements, ce qu'on dirait aujourd'hui parallèles, des mouvements qui ne font pas qu'apprendre par cœur l'enfant. Il faut apprendre par cœur, mais ce n'est pas suffisant. Et en France, Tolstoï a été, surtout à Marseille, il est venu, il a visité une dizaine d'écoles à Marseille, il a été effectivement très déçu de la façon dont on enseignait aux enfants, quoi. Du par cœur et évidemment... Avec un peu de répression aussi, quoi.
Alors, dans son long parcours d'analyse et de réflexion, Léon Tolstoï aussi s'est intéressé à la non-violence.
Tolstoï a été évidemment un non-violent. On pourrait presque dire, j'aime pas dire ça quand même, mais attendez, faut pas que je dise n'importe quoi. Il s'est intéressé très vite, dès qu'il a eu les 30 dernières années de son existence ont été consacrées à cette non-résistance au mal par la violence. On peut dire ça. Au départ, Tolstoï s'est rendu compte par un fait historique auquel il a assisté que la violence entraîne la violence. Ça, il l'a compris. Il s'est inspiré, comme il était quand même quelqu'un d'immensément érudit, il avait... non seulement lu toute la littérature depuis les Grecs anciens jusqu'à nos jours, enfin toute une grande partie, les évangiles et la Bible. Et Tolstoï s'est inspiré énormément du Sermon sur la montagne. sa mention de la montagne qui dit bon voilà, si on te frappe, tu tends l'autre joue. Je connais pas le détail, mais bon, c'est, en gros, c'est comme ça. Tolstoï a dit voilà, donc ça ne sert à rien de répondre à la violence par la violence. Nous sommes dans un pays autocratique. En Russie, la Russie du 19e est absolument très très dure. Personne ne peut dire ce qu'il pense, bien évidemment. Il n'y a aucune presse libre. La religion n'est pas libre. On est obligé de suivre le mouvement religieux et de l'État. Et donc, il a, on peut dire qu'il a travaillé pendant 30 années. Oui, on peut dire qu'il a travaillé 30 années sur la non-résistance au mal. Et un jour, vers la fin de sa vie, l'Inde du début du 20e était déjà en effervescence contre les Anglais. Et il y avait un émigré hindou qui était un révolutionnaire hindou qui voulait s'organiser pour prendre les armes, qui était aux États-Unis ou au Canada, je ne me souviens plus, enfin là. Et donc, que Tolstoï était connu, qui écrit à Tolstoï en lui disant que qu'est-ce qu'on peut faire pour libérer l'Inde de l'Angleterre. Et là, c'est là, la fameuse lettre à un hindou, qui est très célèbre, de 20 pages. Tolstoï lui répond en détail que ce n'est pas par la violence qu'on libérera l'Inde, mais c'est par la non-violence.
Dans cette Russie répressive, est-ce qu'il n'a pas eu de menace ? Il n'a pas été menacé par les autorités ?
Mais, bon, Tolstoï bénéficiait, il faut le dire, de son titre de comte, de barine, de grand propriétaire terrien. Il ne faut pas oublier que Tolstoï était issu d'une famille de très grande aristocratie russe. Sa mère était la princesse Volkonsky, c'est pas rien, proche du pouvoir du tsar. Donc, il a bénéficié de la meilleure éducation et d'une couverture, si on peut dire, au départ. Mais avec tout ce qu'il a fait comme action, il a été menacé physiquement, non, mais inquiété, oui, et très souvent, la plupart de ses écrits devaient passer à la censure, n'ont pas pu être édités en Russie, et on l'a menacé, pas menacé physiquement, non, mais il a été censuré combien de fois, il a toujours lutté pour cela, hein. Quand ses écrits on ne pouvait pas les éditer en Russie, il avait des correspondants dans le monde entier, surtout en Angleterre. Il envoyait ses écrits sous le manteau, comme on dit, comme ça. Il y avait l'Europe aristocratique existait au 19e siècle sans problème. Les gens voyageaient évidemment sans problème. Enfin, ceux qui avaient l'argent et le savoir et la culture. Donc, il n'a jamais renoncé à continuer son œuvre de résistance.
Oh.
On est très surpris, Claude Ferré, par la, cette émission qui part de la fin. On a débuté par la fin de la vie de Léon Tolstoï. Pourrais-tu nous expliquer pourquoi ?
Bien sûr. Aujourd'hui, nous sommes le 7 novembre 2010 et il y a exactement 100 ans que Léon Tolstoï est mort. Donc, en France, en Russie et dans le reste du monde, il y a plein de manifestations. Je devais retourner en Russie pour ce genre de manifestation au mois d'août et je n'ai pas pu y aller, y retourner pour une raison familiale. Voilà, donc la France, la Russie, c'est l'année franco-russe, l'année Tolstoï. Je repars à Paris au mois de novembre pour ce genre de colloque, de rencontre. Donc c'est vrai que nous avons... Donc je trouvais que c'était ça s'imposait de commencer par la mort de Léon Tolstoï aujourd'hui, cette série d'émissions, dans la mesure où aujourd'hui, c'est il y a 100 ans qu'il est mort. Donc voilà, voilà la raison pour laquelle nous commençons par la mort de Tolstoï et en même temps pour être dans un mouvement. Moi, ça me plaît beaucoup d'être dans un mouvement mondial, européen, russe. Où on fait beaucoup de manifestations, où on reparle de Tolstoï. Donc j'ai trouvé que ça me passionnait, ça me tenait vraiment à cœur de commencer cette émission par la mort de Tolstoï, mais il y en aura d'autres qui seront... On ne parlera pas de la mort.
Voilà pour cette série d'émissions sur Léon Tolstoï. La prochaine, donc, je pense qu'on va parler de son enfance. Les autres émissions, ça va parler de quoi ?
Alors, moi, ce que je propose, oui, on va le faire naître après. Voilà, la prochaine émission, on va le faire naître.
C'est une résurrection.
je sais pas, peut-être. On va le faire naître. Donc, on va parler de... Moi, je trouve ce qui est important, on va parler du contexte social culturel dans lequel Tolstoï est né. De la famille où il est né, là où il est né, qu'est-ce qu'il a fait, comment il a vécu, ses études, comment ça s'est passé pour lui, quoi. Hein. Moi, je pense que, voilà, on peut parler de ça dans les émissions successives. Et puis après, tout son travail qu'il a fait avec les serres, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup... Moi qui suis paysan, j'ai été aussi, évidemment, très, très touché de voir son engagement pour libérer les serres, parce que, comme vous le savez, milieu du 19e siècle en Russie, nous sommes en plein servage. Et en plein servage, ça veut dire dans une époque féodale en Russie. Donc Tolstoï a ressenti une injustice phénoménale en lui, et il a tout arrêté ses études, et il est venu sur sa propriété pour s'occuper à libérer ses serres. C'était pas banal quand même. Voilà, nous parlerons de cela. Nous parlerons des écoles pour les serres qu'il a fait lui-même, qu'il a encouragé. Il a donné l'école, il a fait l'école lui-même à ses serres, ses moujiks. Voilà, nous parlerons ensuite après de ses années de guerre, parce que Tolstoï est parti dans le Caucase, en Tchétchénie. Et on expliquera pourquoi il est parti là-bas, qu'est-ce qu'il y a fait, qu'est-ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait après ses 4-5 années de service militaire et de guerre ? Pourquoi il est reparti ? Pourquoi il a fait des voyages en Europe ? Pourquoi il est revenu sur sa propriété ? Pourquoi il s'est marié ? Pourquoi il est resté 17 ans sur sa propriété sans voyager, plus du tout voyager ? Quand il a été marié, c'est ces années de grande création. Cette stabilité familiale, d'ancrage dans son domaine, lui a permis d'écrire ses grands romans, ses chefs-d'œuvre, Guerre et paix, Anna Karénine. Voilà, nous parlerons ensuite du Tolstoï travailleur social, qui a participé à des grandes famines en Russie, à des recensements à Moscou, qui a écrit des articles pour dénoncer l'injustice de tous les pouvoirs. Moi, j'aime bien l'appeler le pourfendeur de tous les pouvoirs. Ça, il faut dire qu'il n'avait pas peur mais il avait quelque chose de particulier qui faisait que tout le monde le reconnaissait. Lorsqu'on lit Guerre et paix, n'importe qui peut le lire, le paysan qui sait lire ou le riche, le pauvre, tout le monde peut lire Guerre et paix. On peut lire toute l'œuvre de Tolstoï. Voilà, Nous parlerons de toutes ses actions sociales, de son engagement avec la non-violence, c'est un volet très important, et de ses rapports avec Gandhi. Et bah, c'est déjà pas mal, ça. Il y a de quoi dire.
Ça va nous tenir.
Ça va tenir, ça, déjà.
Mais écoutez, nous retrouverons Léon Tolstoï et Claude Ferré périodiquement sur les antennes de Radio Centrafrique et surveillez nos bandes annonces. Vous serez au courant du nouveau programme qui vous est concocté à cette occasion du 100e anniversaire de la mort de Léon Tolstoï. Claude Ferré, oui, voulait nous parler aussi de quelques livres qui l'ont inspiré, qui, sur lesquels on peut se pencher pour pouvoir comprendre un petit peu Léon Tolstoï. Je te laisse les annoncer.
Ben, je veux simplement parler des trois livres. Donc, le premier que j'ai cité, c'est « La mort d'Ivan Illich » de Tolstoï. Certains l'ont certainement lu. Et un livre qui est intéressant, qui parle spécialement de la... C'est un tout petit livre, hein, tout petit, qui s'intitule « La fuite de Tolstoï » de Alberto Cavallari, je crois que c'est un Italien. Voilà. Et « Tolstoï est mort » de Vladimir Posner, c'est une réédition, ce livre a été écrit en 1929. Et Vladimir Posner nous parle des... Ben, nous parle de la mort de Tolstoï, c'est très beau, c'est très intéressant à lire. Voilà.